Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. Aujourd'hui dans votre émission, la suite des aventures de Sonic. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, nous nous étions arrêtés au moment du développement sonore du jeu Sonic sur Mega Drive en 1990. Le groupe Dream Come True est devenu sur l'archipel un groupe culte au fil des années. Masato Nakamura reconnaît qu'il ne s'y attendait pas du tout et pour cause. Je venais tout juste de commencer ma carrière avec Dream Come True lorsqu'on m'a demandé si je voulais essayer de réaliser la musique du nouveau jeu Sonic. J'étais plus que surpris, mais ce qui m'a donné envie de tenter ce challenge, c'est que tout le monde chez Sega m'encourageait en me disant que le jeu allait être supérieur à Mario. À cette époque, Mario dominait le monde du jeu, c'était vraiment incroyable. Et j'étais très impressionné par la passion qui transpirait de l'équipe de développement et leur envie de le supplanter. J'ai donc fait mon maximum pour contribuer à ce projet. Le jeune homme se souvient notamment de ses parties sur des titres comme Spinset Vider et s'imagine travailler sur des beeps et des bloops, mais c'est exactement vers quelle direction musicale il souhaite se diriger. Masato doit s'adapter au chip sonore de la Mega Drive et s'habituer à la conception de musique sur ordinateur. Rien d'impossible, au contraire, il existe alors un véritable engouement pour les compositions dites électroniques. Au début des années 1990, il y avait une attirance pour la conception de musique assistée par ordinateur. C'était vraiment le parfait timing pour créer la bande-son de Sonic. Et nous avons mis tout notre cœur à l'ouvrage. L'art, le divertissement et l'informatique sont devenus monnaie courante dans la vie de tous les jours et c'est là que Sonic est né. Réalisé sur un micro de marque Atari, la conception musicale n'a pas été de tout repos. La partie la plus difficile à gérer a été le nombre de sons jouables simultanément. À l'époque, je ne pouvais en employer que 4 en même temps, déclarera Masato Nakamura. L'utilisation de chaque séquence sonore a été un choix cornélien. En dehors des 4 sons modulables, je n'avais accès qu'à une basse, 2 accords et une mélodie. C'est tout. Sans connaissance musicale ou informatique, il est impossible de réaliser ce genre de travail. Or, petit à petit, Masato parvient à monter différentes mélodies qui font l'unanimité auprès de chez Sega. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il négocie de front son album avec Dream Come True, passant de l'un à l'autre dans la même journée. À l'heure de l'internet, il est difficile de s'imaginer les moyens mis en œuvre pour transmettre à l'équipe les délicieuses mélopées du jeu Sonic the Hedgehog. Aujourd'hui, déclarera-t-il, la musique du jeu peut être envoyée via un email. Mais avant, il fallait enregistrer la bande sonore sur cassette audio. L'ingénieur du son implantait alors la mélodie en l'adaptant aux capacités sonores de la console et me renvoyait la puce afin que je puisse vérifier si tout fonctionnait parfaitement. Lorsque les musiques ont été finalisées, j'étais très content et j'ai voulu découvrir toutes mes compositions à travers le jeu. Mais j'étais si mauvais, la manette en main, que je voulais demander à Sega de créer un petit code d'invincibilité pour ma cartouche, avoue-t-il en riant. Pour l'anecdote, c'est sa chanteuse, Miwa Yashida, joueuse émérite, qui lui a permis d'écouter son travail dans les conditions du jeu. Nous sommes au mois de juin 1990 à Makaori Mess, à Shiba. Sonic signe sa toute première apparition dans une démonstration technique présentée au Salon International du Jouet de Tokyo, le Tokyo Toy Show. Bien décidé à créer l'effet de surprise, le personnage inconnu se dévoile discrètement aux côtés d'une blonde pulpeuse. Les quelques heureux élus conviés à la présentation privée découvrent ainsi la première esquisse du niveau Green Hill Zone que le hérisson bleu traverse à vive allure sur fond de scrolling hyper rapide, affichant 7 plans différents pour l'époque. De quoi épater la galerie. Pourtant, malgré la prouesse technique, les graphismes restent particulièrement ternes et la presse de l'époque n'a que peu fait mention de cette dernière irruption. S'ensuit une longue période de silence radio suite à la demande de Sega of America, désirant garder son atout pour contrer la Super Nintendo au CES de 1991. À cette époque, le jeu n'en est qu'à ses balbutiements et n'affiche que 2 petits mois de développement au compteur. En outre, la thématique des robots n'est pas encore à l'ordre du jour. On retrouve en lieu et place d'étranges monstres tels que des mains aux doigts crochus avec des ailes de chauve-souris et un docteur Eggman vêtu d'un costume aux couleurs d'une abeille qui n'est encore rien de l'ennemi final. Dès octobre 90, un magazine réservé aux membres du Sega Player Enjoy Club laisse échapper une phrase un peu mystérieuse. Le projet Sonic est en mouvement. Nous avons des informations. Il s'agit d'une cartouche de jeu pour ce printemps. Et ce, sans davantage d'explications. Une poignée de Japonais se demande alors quel est ce mystérieux projet Sonic. La réponse ne se fait pas attendre. Le mois suivant, le nouveau numéro du magazine informe des dates de concert Wonder 3 de Dream Come True. Sur la même page sont dessinés les 3 membres du groupe, ainsi qu'au milieu d'eux, un petit personnage bleu et mignon tendant les bras en direction du lecteur. Qui est-il ? La page suivante annonce « Le voilà enfin ». C'est là la première apparition connue de la nouvelle mascotte de Sega. À travers une interview imaginaire, le hérisson s'adresse au lecteur dans un langage très décontracté. Il se présente comme originaire de Christmas Island, un monde totalement différent du nôtre, dans lequel il vit de grandes aventures et occupe son temps libre en jouant dans un groupe de rock. Si le protagoniste est présenté, les joueurs en savent encore peu. Seule information, il est question d'un jeu d'action prévu sur console avec une mystérieuse référence dans l'article à Chuck Yeager, le premier homme à avoir franchi le mur du son. La curiosité des lecteurs est titillée, puis c'est à nouveau le silence radio. La suite des aventures de la création de Sonic, c'est pour une prochaine émission. Et maintenant, c'est l'heure de votre pause musicale avec Life Like So Electric. C'était votre pause musicale dans l'émission Carrément Rétro avec Life Like So Electric.
Ornithorynque sur internet, c'est sur www.ornithorynque.net.
Moi j'écoute Carrément Rétro Ornithorynque et j'aime ça.
La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui dans le jeu du jour, Tomb Raider sur PlayStation 1. Considérée par beaucoup comme la fille spirituelle du Dr. Jones, Lara n'était pourtant pas nécessairement destinée à être une star. Mais son sex appeal et surtout sa personnalité solitaire ont su la faire passer du statut de simple personnage de jeu vidéo à celui d'icône. Au cours de sa carrière qui débuta en 1996, l'héroïne de Tomb Raider aura su séduire aussi bien les joueurs en manque d'action que la presse qui aura tout fait pour s'approprier son physique attrayant. Il était donc temps de s'attarder sur les clés de sa réussite. Pour sa toute première aventure, Miss Croft est contactée par une certaine milliardaire du nom de Natla. Cette dernière lui propose de partir à la recherche de la dernière relique de l'Atlantide, le Sion, dissimulé au cœur du Pérou. Une fois sur place, notre aventurière fétiche échappe à une meute de loups et se retrouve bien malgré elle, prisonnière des cavernes enneigées de la cordillère des Andes. Désormais seule, elle devra alors faire preuve de sang-froid pour trouver l'objet de sa quête et découvrir quelle étrange machination se cache derrière l'entreprise de Natla. Voilà ce que les deux premières cinématiques, en images de synthèse du plus bel effet, laissent entendre du scénario. Il faut savoir que de nombreuses séquences se déclenchent déclencheront à la fin de certains mondes et développeront la trame principale en apportant de multiples rebondissements. En résumé, Tomb Raider propose une histoire bourrée de péripéties à en faire pâlir Indiana Jones. Vous commencerez votre quête dans les cavernes proprement dites. La première chose que l'on constate est bien entendu l'immense travail graphique effectué sur la modélisation des décors. Tous les éléments du jeu ont bénéficié de la 3D. Les architectures anciennes sont clairement reconnaissables par leurs textures caractéristiques. Prenons par exemple le tout premier monde au Pérou. Les parois de roches et de neige encadrent des chemins étroits au sol couvertes d'empreintes de loups. Après un parcours sinueux, vous voilà devant l'entrée d'une ancienne ville Inca avec au programme hutte désaffectée, statues sacrées, végétation luxuriante et même une vallée perdue peuplée de dinosaures. Rappelez-vous ce passage où l'on se fait poursuivre par un T-Rex mythique. De plus, l'impression de profondeur ténébreuse est accentuée par un somptueux jeu de lumière faisant baisser l'éclairage déjà très faible à l'arrivée de zones de plus en plus oubliées. Notre chère Lara se voit-elle aussi attribuer son lot de polygones. La vue à la troisième personne lui permet d'admirer ses courbes généreuses et sa poitrine opulente. Hélas, la qualité a pris le dessus sur la fluidité. En effet, des ralentissements se font sentir lors de quelques passages de plateforme critiques ou lorsque l'environnement est surchargé d'ennemis. Cela arrive malheureusement assez souvent, ce qui devient pénible à la longue. Parlons maintenant du déroulement du jeu en lui-même. Ce sont en tout 15 niveaux répartis en 4 mondes qui vous attendent. L'univers Inca initial précédera le monde gréco-romain qui vous fera voyager au travers d'un monastère à la gloire des dieux antiques, puis dans un colisée paumé au beau milieu de nulle part. Enfin, l'Égypte pharaonique, avec ses déserts de sable, ses sarcophages et son sphinx imposant, sera votre dernière escale avant d'entreprendre l'exploration du continent perdu et volcanique de l'Atlantide. Le level design est plus ou moins tortueux selon les endroits traversés. La linéarité des 4 ou 5 premiers niveaux va peu à peu laisser la place au labyrinthe machiavélique des derniers, où les allers-retours seront fréquents. En plus des actions traditionnelles des jeux de plateforme, courir, sauter, s'agripper, notre héroïne dispose de mouvements inattendus, comme le célèbre saut de l'ange, véritable marque de fabrique de la saga, ou encore le poirier au-dessus des rebords. Vous devrez aussi partir à la collecte de clés pour ouvrir de nouvelles portes, actionner des leviers, etc. Lara sait également nager. L'aventure propose donc des passages sous-marins qui regorgent d'items plus que nécessaires d'ailleurs. Saupoudrez le tout avec des blocs à tirer ou à pousser, des rochers dévalant les pentes abruptes, des fosses garnies de pics et autres pièges anti-Lara, et vous obtenez un jeu très ardu, plutôt réservé à un public averti. Il est primordial d'user de la vue panoramique pour se repérer et dénicher la petite corniche vers la suite de votre épopée, faute de quoi vous vous perdrez. Si les moments d'action ont de quoi pimenter votre progression, la difficulté déjà mal dosée est accrue par une maniabilité bien trop rigide. Manœuvrer notre exploratrice est aussi délicat que de conduire un semi-remorque. C'est certainement le plus gros point faible du soft. Tomb Raider étant le genre de jeu où l'erreur est interdite, et même si les trousses de soins foisonnent, la plupart des pièges ne sont que des allées simples au cimetière. Par ailleurs, la jouabilité sous l'eau est aussi délicate que sur terre. Vous vous retrouverez plusieurs fois à nager dans le vide car un satané mur vous bloque ou parce que les courants vous emportent. La jauge d'énergie s'épuisant assez vite, remonter à la surface pour reprendre de l'air en devient exaspérant. Ainsi s'installe un ingénieux système de sauvegarde par récolte de cristaux sur la PlayStation 1 et la Sega Saturn uniquement. Ces derniers sont éparpillés au moment critique du jeu et permettent aux joueurs de recommencer les passages les plus délicats. De plus, un niveau d'entraînement est disponible dès le départ. Il se déroule dans la luxueuse villa de Lara, qui, au passage, tient plus du gymnase que de la maison. Vous y suivrez les précieux conseils de la belle, qui vous apprendra toutes les bases à connaître, comme les sauts latéraux ou les roulades. Ce sera aussi l'occasion d'entendre la sublime voix de l'aventurière. Terminons en apothéose en parlant de la bande-son très caractéristique du soft. Déjà, on apprécie dès le départ le thème doux et mélodieux du menu principal. Ensuite, une musique répétitive, discrète et angoissante se fait entendre en bruit de fond dans chaque monde. Ce rythme colle à vos agissements à la moindre seconde. Quand vous arrivez dans une pièce où une menace se cache, celui-ci change et vous avertit immédiatement du danger qui guette. Une idée magistrale pour retranscrire l'atmosphère ténébreuse de l'époque qui vous entoure. Au final, ce jeu, je lui donne la note de 80%, car tous les éléments ont eu droit à leur lot de polygones, les décors sont diversifiés et mis en valeur par des effets de lumière utilisés à bon escient. Seul problème, les ralentissements de temps en temps agaçants, la maniabilité plutôt pointilleuse, mais tout cela est rattrapé par le plaisir du jeu et surtout le son. Parlons prix maintenant. La version Saturn est un peu plus chère que la version PS1. Comptez une quinzaine d'euros pour la version Saturn et une dizaine d'euros pour la version PlayStation. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. We'll be right back. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.